Ok. Bien. Alors, on a commencé la semaine dernière. J'appelle ça sur l'éthique médicale. Bon, c'est un sujet très, très vaste. Comment aborder, je dirais, les questions que les progrès technologiques liés à la santé proposent par rapport donc à notre tradition et comment les aborder. Donc la semaine dernière, on a abordé quelques aspects, je dirais, une réflexion, que j'appellerais une réflexion sur le corps, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière, à partir de ce passage magnifique sur l'allaitement. Et nous allons voir un passage absolument central lié à la contraception. Bon. Alors je parlais là avec quelqu'un il y a quelques minutes. Il m'a dit sur quoi tu vas faire ton intervention? Alors, il dit sur la contraception. Alors, c'est un sujet, on pourrait dire. On demande à quelqu'un qu'est-ce que le judaïsme a à dire sur la contraception. Je pense que, sauf ceux qui ont étudié le sujet à fond en termes talmudiques, ne savent rien. Qu'est-ce que. Je ne veux pas faire trop des choses personnelles, mais a priori, on demande comme ça. Ne pas faire un tour de table, mais l'idée, je pense que, je ne veux pas vous faire offense, mais je pense que l'encéphalogramme sera plus ou moins plat. Bon, c'est rien, c'est pratiquement rien. Alors, on va essayer d'aborder les choses à partir d'un passage dans la Torah. Donc, on va prendre des chumash là-bas. Hein. Le passage de départ se trouve évidemment sur Erv et Onan. Donc c'est dans Bereshit, la Genèse, chapitre Lametret. Donc la Genèse. Bereshit, chapitre Lametret, Passouk Aleph, chapitre 38. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au début de la parashat Vayeshev, nous savons que Yosef fait ses rêves. Et les frangins, ils sont pas contents. Ils sont pas contents et ils veulent se débarrasser de leur frère. D'abord, ils veulent tuer leur frère. Et ensuite, il y a Yehuda, il dit à ses frères, qu'est-ce qu'on gagne à le tuer? Vendons-le. Et c'est comme ça qu'ils le vendent à une caravane de Ishmaélim qui passait, machin. Ok. Et chapitre Lametret, Passouk Aleph, chapitre 38, verset 1. Monsieur veut un texte peut-être?
Si c'est gratuit.
Pas 64. Vayehi ba'et ha'i, vayered Yehuda, me et Echav, vayet ad ish adulami ou shemo chira. Ce fut à ce moment-là, Yehuda descendit d'auprès de ses frères, c'est-à-dire Yehuda qui était le meneur. Rashi explique, quand les frères ont vu combien leur père était terrassé par la disparition de Yosef, Alors, ils ont évincé Yehuda. Ils ont dit, Yehuda, tu nous as dit de vendre notre frère. Si tu nous avais dit de le ramener à la maison, on l'aurait fait. Tu as trop d'ascendance sur nous, on ne veut plus te voir. Donc, Vayered Yehuda Meterav, il est descendu. Donc, il était à un niveau élevé, il est descendu de chez ses frères, d'auprès de ses frères. Vayet Ad Ish Adulami ou Shemo Chira, il a planté ses tentes auprès d'un homme de la ville d'Adulam qui s'appelait Chira. Vayarsham Yehuda Bat Ish Knani ou Shemo Shua, Vayikarea Vayavo Elea. Yehuda vit là-bas la fille d'un homme cananéen. Rachid explique qu'il n'était pas cananéen, mais c'était un commerçant. Le nom de cet homme, c'est Shua. Il prit cette femme, il alla avec elle. Bon, il épousa cette femme. Va ta'ar, va telet ben, va ikra et shemo er. Elle fut enceinte, elle mit au monde un fils. Il appelait son nom Er. Va ta'ar od, elle fut encore enceinte. Elle mit au monde un fils. Va tikra et shemo onan. Elle fut encore enceinte. Elle mit au monde un fils. Elle a appelé son nom onan. Très intéressant. Le premier, c'est au masculin. Va ikra et shemo er. C'est Yehuda qui l'a appelé er. Le deuxième, c'est la femme qui l'a appelé onan. Va tosef od. Va telet ben. Elle a rajouté encore et elle a mis au monde un fils, Vatikra et Shemo Shela. Elle a appelé son nom Shela, Vaya Birziv Belita Oto. C'était dans la ville de Rziv quand elle l'a mis au monde. Vaikar Yehuda Isha le Herbe Choro ou Shema Tamar. Yehuda prit une femme pour Er, son fils aîné. Son nom, c'est Tamar. Vaye i er Behor Yehuda ra be'ene Hashem vaye mi te ou Hashem. Er, le premier-né de Yehuda, fut ra be'ene Hashem. Traduisons ra be'ene Hashem. Comment on traduit ?
Méchant.
Ah, ça doit être terrible ce qu'il a fait là. Être appelé Ra Ben Hachem, mauvais aux yeux de Dieu, c'est que c'était vraiment pas bien ce qu'il a fait. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Il était Ra Ben Hachem. Il était mauvais aux yeux de Dieu. C'est une expression extrêmement forte. Hein? C'est-à-dire que quelqu'un soit mauvais aux yeux d'un autre, c'est déjà mal barré. Mais mauvais aux yeux de Dieu, je veux dire... Je sais pas, vous aimeriez, vous ? Hein ? Je sais pas. Même quelqu'un de comment dire, agnostique, quelqu'un qui s'en fout de Dieu, tu sais, t'es mauvais aux yeux de Dieu. Ça met pas à l'aise, hein, je trouve. Alors, il était mauvais aux yeux de Dieu. Va yomiteum Hachem, et Dieu l'a tué. Frac! Ah, pas par quatre chemins, là, hein? Il n'y a pas de négociation. Il est Ra Ben Hachem, the end. Va yomer Yehuda Leonan, bo el eshet achicha, ve yabem ota, ve akem zera le achicha. Yehuda dit à Onan, le frère, viens avec la femme de ton frère, veya bemota, épouse-la. C'est la notion du lévira. C'est-à-dire que quand un frère meurt sans enfant de sa femme, le frère, l'autre frère vivant, doit épouser. Donc c'est ça ce qu'il dit, épouse-la, pour donner le veya bemota, veya kem zera l'achira, donne une descendance à ton frère. Va yeda onan ki lo lo ye azara va ya imba El eshet achi veshichet artsa le bilti neton zera leachiv. Onan savait que la descendance ne serait pas pour lui. Et au moment où il allait avec la femme de son frère, il dilapidait au sol pour ne pas donner une descendance à son frère. Vayera bene Hashem asherasa, c'était mauvais aux yeux de Dieu ce qu'il a fait. Vayamet gamoto, il l'a tué lui aussi. Bien. Alors, le verset dit à propos de Onan, le verset dit à propos de Onan clairement qu'est-ce que lui faisait. Qu'est-ce qu'il faisait? Ben, manifestement, le Talmud dit, il commençait la relation, excusez-moi l'expression, il commençait la pénétration avec Tamar. Et il éjaculait à l'extérieur pour qu'elle ne soit pas enceinte. Voilà. Donc ça, c'est clair. Pourquoi le verset dit clairement quel était le problème? Ça, c'est appelé rabbinat. C'est appelé mauvais aux yeux de Dieu. Voilà. C'est appelé mauvais aux yeux de Dieu. Bien. Maintenant, ça donnait en français le terme onanisme, qui en vérité n'est pas, c'est pas ce qu'on appelle onanisme en français. N'est-ce pas? Je sais pas. Vous comprenez le français? Comment?
Si je demande à mes étudiants, en tout cas, personne ne connaît l'onanisme.
Le mot, ils connaissent pas.
Ils connaissent très bien la pratique, peut-être.
Mais le mot, ils connaissent pas. D'accord ? Bien. Donc ça veut dire, c'est en français, le mot onanisme, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la masturbation.
Je pense que c'est les pères de l'église orthodoxe grecque qui ont dû... Je peux pas le dire, mais en tout cas, comme ça s'emploie en grec, je pense que c'est l'église orthodoxe grecque, au début, je peux te faire des recherches, qui a dû mettre ça en place.
Non, d'accord, mais c'est pas ce que le verset dit. Oui. C'est pas loin de le sujet. C'est pas le sujet. Si, manifestement, c'est pas très loin. On va voir dans les commentateurs que c'est pas tout à fait loin. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il ne voulait pas que sa femme soit enceinte. C'est ça le sujet. Il ne voulait pas que sa femme soit enceinte. Voilà. Il ne voulait pas que sa femme soit enceinte. C'est ça le point, n'est-ce pas, qui est visé. Alors, alors, c'est intéressant, enfin, c'est à remarquer que le deuxième, Onan, le verset nous explique qu'est-ce qu'il faisait et qui est appelé mauvais aux yeux de Dieu. Le premier, R, on ne voit pas qu'est-ce qu'il a fait de mauvais, on ne sait pas. Alors, le commentaire de Rashi explique que c'était la même chose, mais pour une autre motivation. C'est que Tamar, il y a tout le chapitre parle de cette fameuse Tamar, était exceptionnellement belle, et Er ne voulait pas que Tamar soit enceinte. Er ne voulait pas qu'elle soit enceinte parce que la grossesse abîmerait sa beauté extraordinaire. Donc, il ne voulait pas qu'elle soit enceinte. C'est comme ça que Rashi explique, et c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle en français, excusez-moi l'expression, coitus interrompus, machin, comme on dit en latin. Ouais, coit interrompus, c'est-à-dire, il commençait et il évacuait de manière à ce qu'elle ne soit pas enceinte. Bien. Alors, voilà. Donc, ça, c'est le passage base. C'est le passage de départ. Mais les commentateurs vont se demander, nous voyons le châtiment, nous voyons manifestement que Dieu, il n'aime pas ça. Oui, manifestement, c'est pas... Dieu n'aime pas ça. Mais pas du tout. Mais D'accord, nous voyons le châtiment. Mais il n'y a jamais dans la Torah un châtiment sans interdit. Quel est l'interdit? Est-ce que ma question est compréhensible? C'est-à-dire que, disons que quelqu'un tue un autre, d'accord? Et le tribunal condamne cette personne à mort. Alors, le Talmud va dire, si cette personne est condamnée, c'est qu'elle a transgressé un interdit. On peut comprendre que cette personne soit condamnée à mort. Mais, quel interdit a-t-elle transgressé? Alors, on va dire, oui, c'est écrit la Torah, non tire ça, ne tue pas. De la même manière ici, on voit manifestement que R, V, Onan, eh bien, ce qu'ils ont fait était mauvais aux yeux de Dieu. Maintenant, pourquoi c'est appelé mauvais aux yeux de Dieu? Pourquoi mauvais aux yeux de Dieu? Je sais pas, mauvais aux yeux de Dieu, je sais pas, c'est mauvais aux yeux de Dieu, c'est Galliano qui dit « Heil Hitler », voilà, ça c'est mauvais aux yeux de Dieu. Mais, vous savez, c'est pas le mec. Bon, mais voilà, ça c'est mauvais aux yeux de Dieu. Mais ça, qu'est-ce qu'il y a de tellement mauvais? Voilà. Alors disons, la Torah dit ça c'est mauvais. Ça c'est mauvais. Mais que cette personne soit, qu'elle reçoive un châtiment, qu'est-ce qu'elle a transgressé? Il n'y a de châtiment que s'il y a transgression. Voilà. Quelle est la transgression? Alors c'est un grand débat, dans les commentateurs. Un grand débat dans ce qu'on appelle les Rishonim, c'est-à-dire les commentateurs premiers du Talmud. C'est un grand débat. Qu'est-ce qui se passe?
Je crois avoir étudié avec Léna justement les textes qui. Les psaumes de Noir qui juxtaposent le. Tu ne verseras pas le sang de ton prochain et Pérou ou vous. Alors qu'à premier abord, il n'y a pas vraiment de connexion entre les deux. On tire de là que le fait de se multiplier, c'est un ordre, c'est un commandement et que de ne pas le faire, ça reviendrait à tuer, comme dans le passage qui précède.
D'accord, alors c'est un avis, c'est bien, oui, c'est un avis, c'est l'avis de Rabbeinu Tam, alors regardez, on va rentrer dans une incidence halakhique. Il y a un grand débat, grosso modo, entre Narmanide et Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, c'est qui sa vie, son œuvre?
Petit-fils de Rashi.
Oui, petit-fils de Rashi, très bien. Qui vivait où?
Metz.
Non, Ramru.
Quoi?
Ramru. Ramru, c'est à 30 km de Troyes. C'est un petit village en Champagne aujourd'hui. Ouais. Ramru, il vivait à Ramru. Vous allez à Ramru aujourd'hui, vous allez à un petit village. Donc, Rabbeinu Tam était là-bas. Donc, c'est 12e siècle, petit-fils de Rashi, Rabbeinu Tam, contemporain de Godefroy de Bouillon. C'est des croisades, contemporain des croisades. Ok, ça c'est Rabbeinu Tam. Ramban est à peu près contemporain, il était en Espagne. Bien. Donc, il y a un grand débat. Rabbeinu Tam dit finalement ce que vous dites. Que tous les Rishonim demandent où est l'interdit d'Ashrata Zera. Le verset dit Ashrata Zera. Ashrata Zera, c'est-à-dire détruire la semence. C'est ça. Il dit, il allait avec elle, il détruisait sa semence. Mais Shiret Atsa, ce qui a donné le concept talmudique de Ashrata Zera, de détruire la semence. Bien, Ashrata Zera. Mais cette notion tire son interdit de quel commandement de la Torah? Alors, Rabbeinu Tam propose une démarche extrêmement importante et très profonde. Il dit, c'est le corollaire négatif du commandement positif de fructifier et multiplier. Étant donné qu'il y a l'impératif de fructifier et multiplier, Donc, il faut être focalisé sur ce commandement positif de fructifier, multiplier. Donc, détourner son investissement de cette dimension, c'est transgresser ce commandement de fructifier, multiplier. Incidence très importante de Rabbeinu Tam, c'est que si on suit la démarche de Rabbeinu Tam, il le dit lui-même, d'après ça, comme le commandement de fructifier, multiplier ne s'applique qu'aux hommes, les femmes n'ont pas ce commandement. Donc les femmes n'ont pas l'interdit d'Ashrata Tzera. Ça, c'est l'incidence pratique de Rabbeinu Tam. Alors, cette démarche, c'est une démarche, donc, qui a des incidences, bien.
Où est-ce qu'on voit que le commandement de Pérou, vous, il ne concerne que les hommes?
C'est une Mishnah, dans le traité Yevamot. C'est une Mishnah, Daf, je ne veux pas dire d'erreur précisément, quelle est la page. À la fin du Perek Abal Yevamto, Aïn Dalet, Aïn He, dans le traité Yevamot. Bien. C'est explicite, hein, c'est une Mishnah. C'est un débat dans la Mishnah, mais la Halakha, ça n'est que les hommes ont l'obligation de Péria Vénévia. Alors vous allez me dire, c'est absolument ridicule. Ouais. Exprimez-vous, mesdames, comment dire, c'est naze, quoi, c'est en un mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Les hommes ont l'obligation de Péria Vénévia, mais jusqu'à nouvel ordre, à la limite, on pourrait presque pas se passer d'hommes pour avoir des enfants, mais on ne peut pas se passer de femmes jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Donc.
En même temps, sans rentrer dans des clichés, une femme, elle n'a pas forcément besoin d'un commandement pour avoir.
Il y a plusieurs réponses à ça. Donc, c'est pas le corps du sujet, si vous voulez. C'est pas le corps du sujet, et comme c'est un sujet très important, je veux pas aborder ça comme ça légèrement. En tout cas, moi je dirais, ça a des incidences très très importantes quand même. Prenons un exemple. Un homme, on va le comprendre. Quelle est l'incidence de dire que l'homme a l'obligation de Péria Vérivia, obligation juridique? Et la femme n'a pas l'obligation juridique de Péria Vérivia. Incidence la première, c'est qu'un homme a une obligation juridique de se marier. Le Talmud dit, jusqu'à 18 ans, ça va, à 20 ans, le tribunal rabbinique intervient. Un homme a l'obligation de se marier. Pourquoi ? Pour accomplir son commandement. C'est pas « je veux pas ». Vous savez, comme disent les jeunes feuges ici à Paris, « oui, je suis pas sûr que c'est la bonne. Elle paraît bien, mais quand même, je suis pas sûr. » T'as une obligation, tu t'en fous. Ouais, tu te maries. Voilà. C'est la... moi j'ai une certaine vision simple de la vie, comme vous pouvez remarquer. Mais c'est la première ligne du Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, il y a quatre parties. Il y a une partie qui s'appelle Even Haezer, qui parle du droit matrimonial. Première ligne, l'homme a l'obligation de se marier pour accomplir le commandement de Péria Vérivia. Maintenant, une femme n'a pas l'obligation juridique de se marier. Maintenant, ça va un peu dans ce que vous dites. Peut-être qu'elle a moins besoin d'être poussée pour le faire. Peut-être qu'elle a moins besoin de recevoir un coup de pied au derrière pour se marier. Un homme, il lambine. Il dit, ouais, ça va. J'ai assez de problèmes comme ça. Pas besoin que j'en rajoute. Comme dit un de mes amis, c'est quoi le mariage? C'est régler à deux des problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. Donc ça va, j'ai assez de problèmes tout seul. Pas besoin d'en rajouter. Alors, il se remplisse la tête avec ça. Laisse tomber, réfléchis pas, tu te marres. Donc peut-être que il est possible que la femme est plus encline à se marier plus spontanément, donc pas besoin d'obligation. Mais je ne sais pas si c'est vraiment le fond du sujet, c'est possible. Bien. En tout cas, ça c'est une incidence importante. Donc d'après Rabbeinu Tam, étant donné que l'investissement de l'homme, c'est Peria Verivia, détourner sa focalisation, son investissement de ça, c'est le corollaire négatif de Peria Verivia, donc dilapider sa semence, faire que sa semence l'abîmer, si on peut dire, en vain, faire que sa semence soit en vain, eh bien, c'est interdit à titre du commandement de Peria Verivia. Ça, c'est la démarche de Rabbeinu Tam. Ramban et beaucoup de Rishonim disent non, ça concerne et l'homme et la femme. C'est, nous voyons à propos de la génération du déluge, c'est écrit Vatisharet Aretz. La terre s'est dévergondée. Et la dimension d'une stimulation pour la stimulation est une stimulation personnelle. Oui, j'aime pas dire le terme français qu'on dit là-dessus parce que je trouve ça grossier. Donc une stimulation personnelle rentre dans la dimension de dépravation, de destruction. Donc d'après Narmanide, ça touche l'homme et la femme. Alors, quelle est l'incidence pratique de ça? Alors, je vais vous le dire, mais mon sujet, si vous voulez, qu'est-ce que j'aimerais voir avec vous? C'est comment aborder des sujets qui nous concernent à partir des bases talmudiques. Parce que le Talmud, c'est bien, ouais, c'est magnifique, tout ça, c'est très très beau, le droit, le machin... le droit civil, le droit pénal, mais il y a quand même des choses de notre existence prosaïque. En général, on n'en parle jamais et on n'en sait rien et on s'en fout. Et c'est pas juste non plus. Alors, je vais dire des choses qui sont peut-être choquantes. Oui. Mais mon but n'est pas de choquer. Mon but n'est pas de choquer, mais c'est de voir comment on peut, à partir des textes de notre tradition, analyser des éléments de notre existence. Incidence pratique d'après Rabbeinu Tam. Alors, ça risque d'être de choquer, je l'ai déjà dit. C'est que, d'après tous les commentateurs, la masturbation masculine est interdite, que ça soit d'après Rabbeinu Tam, ou que ce soit d'après Narmanide, c'est strictement interdit. D'après Rabbeinu Tam, l'interdit ne touche pas la femme. Donc, si tant est, la masturbation féminine n'est pas interdite. D'après Ramban, Narmanide, c'est interdit. Vous voyez les incidences, ça a des incidences. Voilà. Comment on tranche la halakha? C'est un débat dans Shulchan Aruch. Il est possible que ça soit permis pour une femme. Donc vous voyez que ça a des incidences. Je ne dis pas que c'est la meilleure chose qu'il faille faire dans la vie, mais ça a des incidences. Ces sujets ont tout de suite des incidences extrêmement importantes dans l'existence. Bien. Donc, en tout cas, l'auto-stimulation masculine est absolument interdite d'après tous les avis. Bien. En tout cas, ici, nous allons continuer sur la base. Alors, voilà. Maintenant, comment ça se passe? Un couple se marie. Donc, la base d'un mariage, pourquoi les gens se marient? Alors, souvent, moi, j'ai dit comme ça, pourquoi on se marie? On se marie, alors on va dire... Moi, j'ai eu une thèse. Ça, c'est du côté des garçons. Parce que les gars, quand ils ne sont pas mariés, qu'est-ce qu'ils font? Ils se nourrissent de quoi? De pâte aux gruyères. Pâte aux gruyères, pâte aux gruyères, pâte aux gruyères. Et quand ils en ont marre, ils ont la flemme de faire des pâtes aux gruyères, ils commandent une pizza. Ben après, alors, pizza, pâte aux gruyères, pizza. Donc, à un moment, elle dit, bon, j'en ai marre, je vais me marier. Moi, j'ai un peu fonctionné comme ça dans mon existence. Comment
lui dira pas.
Non, mais elle le sait, elle le sait. Mais si on veut faire une analyse scientifique du sujet, j'ai remarqué que finalement, si c'est ça, le but du mariage, qu'avec un peu de recul, c'est tout à fait pas bien. Parce que si vous demandez à mes enfants quel est leur plat préféré, ouais, ils disent des pâtes aux gruyères. Donc finalement, les gosses, ils rentrent de l'école. Maman, est-ce qu'on peut avoir des pâtes aux gruyères? Donc finalement, si on voit avec un peu de recul, un regard un peu analytique et scientifique, donc on voit que finalement, c'est pas le but du mariage. On aurait pu imaginer que oui, mais c'est pas le but. Le but du mariage, c'est périavérer. Fructifier, multiplier. Alors vous allez me dire, mais la dame, elle n'a pas cette mitzvah. Elle n'a pas cette mitzvah, mais elle a cette mitzvah néanmoins d'aider son mari à accomplir son obligation. C'est contractuel dans le mariage. Une femme, une femme pieuse dans la Torah, elle se marierait, elle dirait, d'accord mon chéri, c'est très très bien, mais je ne veux pas avoir d'enfant. Ça va contre le contrat de mariage, c'est vous. Parce que la base du mariage, c'est fructifier, multiplier. Bien. Donc il y a cette notion de fructifier, multiplier. Maintenant, est-ce que la contraception pourra être permise à un certain moment? Est-ce que ça pourrait être permis? Alors, nous allons voir un passage du Talmud. Donc le Talmud, c'est des enseignements qui datent de 1800 ans, qui aborde ces questions. Prenons un exemple. Donc la mitzvah de Periaverivia, la base de la mitzvah de Periaverivia, c'est comment accomplit-on cette obligation? Alors, petite question. Quelqu'un fait cette mitzvah? Vous avez déjà entendu? Avec un garçon et une fille, vous avez entendu? Hein, n'est-ce pas? Comment? Un garçon, une fille. Mais la Gemara dit, Samerbet Amoudbet, dans le traité Yevamot, que néanmoins, la mitzvah est d'avoir le plus d'enfants qu'on peut. C'est écrit, Bokeazra Zavara, Vela Erev Altinar Yadecha. On apprend d'un verset, le matin sème ta semence et le soir ne t'arrête pas. C'est-à-dire, il avait des enfants dans sa jeunesse, qu'il ait des enfants dans sa vieillesse. Ça fait partie néanmoins de la mitzvah. Comment ça fait partie de la mitzvah? Ce n'est pas le corps du sujet. Et si vous voulez, la mitzvah de Periaverivia n'est pas limitative avec un garçon ou une fille. Un garçon ou une fille, c'est la base. Mais, disons, a priori, si Akadosh Baruch Hu nous donne de la vie, ouais, de la santé, alors on doit continuer. Mais maintenant, des questions vont se poser. Par exemple, la dame est fatiguée, elle peut faire valoir, ok, on a eu un garçon et une fille, on a déjà eu deux garçons, deux filles, ça urge pas, ça va, mollo, ouais. Alors, comment aborder ça? Le Talmud d'abord, carrément. Franco, le Talmud d'abord. On va voir le passage. Alors, faire comme Hervé Onan pour que la femme n'ait pas d'enfant, ouais. Faire comme Hervé Onan, ça c'est strictement interdit. Alors, on va voir un passage très important du texte. Je vous passe les photocopies. C'est sixième ligne en haut. Donc c'est dans le traité Yevamot, le gros de ces sujets se trouve dans le traité Yevamot. Alors, c'est donc là, c'est bon? Il n'y en a plus? Rupture de stock? Oh, elle prend tout pour elle, là. C'est elle coquine. Hein. Alors. Regardez, ça c'est le texte du Talmud, ça c'est les commentaires. Hein. Bien. Donc, sixième ligne. Tane Rav Bibai Kame de Rav Nachman. Tane Rav Bibai Kame de Rav Nachman. Rav Bibai enseigne l'enseignement suivant devant Rav Nachman. Donc quand on dit Tané, ça signifie que c'est une Beraïta. Une Beraïta, c'est un enseignement de l'époque de la Mishnah. Donc grosso modo, l'enseignement que nous allons voir a 2000 ans. Bon, grosso modo, plus ou moins 100 ans. Hein, c'est, voilà, c'est pas de la semaine dernière, c'est pas celui qui a inventé la pilule dans les années 50. Hein, on est là il y a 2000 ans. Tane Rav Bibai Kame de Rav Nachman. Shalosh Nashim Meshamshot Bemor. Trois femmes ont des relations en mettant un tissu. Shalosh Nashim Meshamshot Bemor. Alors, encore une fois, hein, on est dans le Talmud, et le Talmud aborde les choses comme elles sont. C'est pas aseptisé, c'est pas pasteurisé, et c'est pas derrière l'hygiaphone. Non, ce que je veux dire, ça peut choquer un peu. C'est toujours comme ça. Rav Bibai enseigne devant Rav Nachman. Shalosh Nashim Shamshot Bemor. Trois femmes ont des relations avec leur mari en mettant un tissu. Ktana Meuberet Umenika. Une femme qui n'est pas nubile, une femme enceinte et une femme qui allait. Bien. Alors, le sens premier, et c'est comme ça que Rashi explique, c'est que il y a certaines femmes, prenons par exemple une femme qui allait. Une femme qui allait, on sait qu'une femme qui allait, a priori, l'allaitement inhibe l'ovulation. Ça, c'est théorique. C'est théorique. D'un point de vue normal, souvent d'ailleurs, l'allaitement est une manière de contraception. Parce qu'une femme qui allait, il n'y a pas ce qu'on appelle de retour de couche. Il n'y a pas elle n'a pas de règles pendant qu'elle allait. Donc elle n'a pas d'ovulation. Maintenant, c'est théorique. Ça peut ne pas être comme ça. Alors, ça touche au sujet qu'on a abordé la semaine dernière. Si tant est qu'une femme allait et qu'elle soit enceinte pendant l'allaitement, alors la grossesse coupe l'allaitement. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux pour le bébé. Parce que, à l'époque, disons, jusqu'à une époque récente, La seule possibilité de nourrir, donc c'est le lien avec la semaine dernière, de nourrir un bébé, c'est le lait de maman, qui est parfait en vérité, parce que il s'affecte pas, il est complètement il ne transmet pas de bactéries et des choses comme ça. Et un bébé, il est faible, fragile, donc c'est parfait. Et si la maman, l'allaitement s'arrête, ça peut être un danger pour le bébé. Alors, le Talmud dit qu'une femme qui allaite, premier avis, c'est l'avis de Rabbi Meir, une femme qui allaite, alors comment faire pour avoir des relations avec son mari? Alors, le premier avis dit, eh bien, qu'elle mette un tissu à l'intérieur pour ne pas être fécondée. Voilà. Ça, c'est le premier avis. Les Chachamim disent, non, on craint pas. C'est rare, il n'y a pas de souci à se faire. Et qu'elle ait des relations comme d'habitude. Bien. Ça, c'est la démarche de Rachid. Donc je reprends. Shalosh Nashim, Shamshot Bemor. Trois catégories de femmes ont des relations en mettant un tissu. Alors, vous allez me dire, mettre un tissu, eh bien, va faire que ça empêche donc à la femme d'être fécondée. Alors, comment c'est permis? Parce qu'on vient de dire, d'après tout ce qu'on vient de dire, l'introduction que je viens de dire, Comment c'est permis? C'est pas normal, ça, ces choses-là. Comment? Bah, alors qu'ils n'aient pas de relation, le temps qu'elle sevre l'enfant. Quoi? Oui, alors, d'accord, mais si c'est interdit, on vient de dire que c'était interdit de dilapider la semence.
C'est pas dilapider?
Bah, tu mets un genre de tissu, on appellerait ça aujourd'hui un diaphragme, quoi. C'est l'équivalent d'aujourd'hui d'un diaphragme. Bah, c'est no passare, je veux dire. Ça passe pas, excusez-moi, l'expression, c'est le mur de Berlin.
La femme, c'est-à-dire l'homme, il fait tout ce qu'il peut.
Ouais.
Et puis c'est dans le corps de la femme que, donc comme la femme elle n'a pas l'obligation, c'est permis dans les cas où c'est sauver la vie.
Mais sauver la vie, c'est
sauver la vie. Sauver la vie parce qu'il s'y
mange. Alors que je comprends pas que pendant un certain temps. Il regarde la télé, je veux dire, ça va, qu'il se calme. Excusez-moi l'expression, hein, mais... c'est pas qu'il regarde Nicolas Pimpronel, Bonne nuit les petits... ou l'équivalent aujourd'hui, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a. À mon époque, il y avait Nicolas Pimpronel, il y avait Zorro, Mickey... Non mais je sais pas, ça va... Alors c'est pas facile à comprendre, hein? C'est pas facile à comprendre. Alors je vais vous dire, c'est un sujet classique. Je veux pas exagérer, presque deux livres entiers ont été écrits sur ces lignes-là. Un très grand maître, Rav Moshe Feinstein, c'est le grand maître. Rav Moshe Feinstein est décédé. En 86, il y a 25 ans, 1986, il y a 25 ans, et c'est lui qui a abordé systématiquement à fond tous ces sujets, puisque il a été contemporain des grandes innovations technologiques, dont la pilule, mais avant il y avait le diaphragme, etc. Et il a traité à fond, et en particulier ce passage, avec tous les incidences possibles et imaginables de ça. Alors, je reprends. Analysons en termes talmudiques le sujet. Analysons talmudique. Rashi dit. On va faire Rashi. Shalosh nashim meshamshot bemor. Trois femmes ont des relations avec en mettant le tissu. Rashi. Mutarot la tête mort bemakom tashmish. Keshem shamshot kede shelo itaberu. Oui, oui. C'est la colonne de gauche. Et un peu plus haut, c'est écrit la troisième ligne fine, me chamchot bémor. Donc elles ont des relations avec le tissu. Moutarot, la tête mort, bémakom tashmim, keshen, me chamchot, kede, shelo, itabero. Ces femmes-là, donc moi j'ai pris le cas le plus simple pour comprendre, parce que les autres cas sont compliqués. Et donc je prends le cas le plus simple. Il y a trois cas, mais je prends le cas le plus simple. La femme qui arrête, on peut comprendre aisément. Ces femmes ont le droit de mettre un tissu à l'endroit de la relation pour qu'elles aient la relation, pour qu'elles ne soient pas enceintes. Alors, les commentateurs vont déduire de Rashi, celles-là ont le droit,
les
autres, c'est interdit. C'est-à-dire que pour les autres, démarche de Rashi, ça veut dire que pour les autres, c'est interdit. Alors, les autres, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Donc, ça veut dire, quelqu'un irait avec sa femme qui est en bonne santé, pas de problème, elle n'allait pas, elle n'est pas machin, bidule. Donc, et il mettrait un genre de tissu comme ça pour qu'elle ne soit pas enceinte. La démarche de Rashi, c'est que c'est strictement interdit. C'est seulement ces femmes-là pour lesquelles c'est permis. Sinon, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Évidemment, à titre de ce que nous avons dit dans notre introduction, à titre de l'interdit, de détruire la semence, de faire une relation obstruée. Alors, il faut savoir que pas chaque relation est fécondante. Prenons un exemple. Une femme enceinte. Elle est enceinte, elle ne peut pas être re-enceinte. Et c'est tout à fait permis, même le Talmud le conseille même, qu'une femme enceinte, c'est tout à fait licite, et même mitzvah, d'avoir des relations avec son mari. Or, cette relation ne va pas être fécondante, puisqu'elle est déjà enceinte. Ou bien, le Talmud aborde, ça c'est plus dans nos cultures, c'est plus du tout dans nos cultures, mais on a le droit d'épouser une femme qui n'est pas nubile, qui est petite. C'est tout à fait permis.
Qu'est-ce que ça veut dire, petite? Elle n'est pas nubile.
Ça veut dire qu'elle est... comment on dit en français? Elle n'est pas pubère. Elle n'est pas pubère, voilà. Elle a 10 ans, voilà. Elle n'est pas pubère. Donc c'est licite, c'est permis. Elle ne sera pas enceinte. C'est complètement permis. Alors, l'explique, ou bien, une femme, sa femme, elle est ménopausée, c'est tout à fait permis. Et c'est tout à fait mitzvah. Alors, donc ça veut dire, pas chaque relation est fécondante. Alors, quelle est la différence entre une femme qui, par exemple, est ménopausée et cette femme? Alors, l'explication, d'après Rashi, c'est que l'un, c'est une relation normale, si vous voulez. Il se trouve que conjoncturellement, elle ne peut pas avoir d'enfant. Mais c'est une relation entre un homme et sa femme. C'est pas interventionniste, si vous voulez. Il n'y a pas d'intervention artificielle. C'est une relation. En l'occurrence, elle ne peut pas être enceinte. Bon, ok, c'est pas grave. C'est très important. Nous avons beaucoup étudié, je ne sais pas dans le cadre des études que nous faisons ici le jeudi soir, mais dans notre centre, ceux qui viennent à Cadet ont entendu plusieurs cours là-dessus. Il y a d'autres mitzvot dans le couple, outre le fait d'avoir des enfants. Il y a l'obligation de ona, c'est-à-dire qu'un couple ait des relations régulières de couple. C'est une mitzvah de la Torah. Donc, par exemple, une femme est enceinte, c'est une mitzvah que le mari soit régulièrement auprès de son épouse. Ou bien une femme est ménopausée, c'est une mitzvah que le mari ait régulièrement des relations avec son épouse. Donc, on voit qu'il n'y a pas que la mitzvah d'avoir des enfants. Il n'y a pas que cette mitzvah, il y a aussi d'autres mitzvot. Donc, lorsque une femme qui, par exemple, ne peut pas structurellement avoir des enfants, structurellement ou conjoncturellement avoir d'enfants, ou même prenons par exemple quelqu'un, il a déjà 15 gosses. Oui. Il est séfarade, donc il peut être polygame. Non, je blague, c'est à 21h, il faut dire une blague. Qu'on s'endorme pas, voilà, 21h02, il faut lancer un truc, pour réveiller l'assistance, voilà, une grosse grossièreté, là, ouais. Et donc, il met une petite annonce dans ActuJ, oui, aimerait épouser une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. C'est permis. Surtout, épouser une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, j'ai déjà fait Piria Verevia, lâchez-moi avec ces sujets-là. C'est permis, c'est licite. C'est licite. Pourquoi ? Ah, mais c'est Ashrata Zera. C'est pas Ashrata Zera, c'est une relation entre un homme et sa femme. C'est pas Ashrata Zera. Donc d'après Rashi, pourquoi ici ? D'après Rashi, pourquoi ici mettre le mort, c'est interdit ? C'est interdit. D'après Rashi, de mettre un mort, c'est interdit. Parce que mettre une dimension artificielle dans la relation, artificielle, pour Rashi, ça s'appelle Ashrata Zera. Si pour Rashi, ça s'appelle Ashrata Zera, pourquoi dans cette situation-là, où une grossesse serait dangereuse pour l'enfant, pourquoi ça devient permis, si en général c'est interdit? Alors ça, c'est un gros casse-tête. Pourquoi? Comme dit par exemple le roche que j'ai fait en photocopie, ils ont qu'à se séparer un certain temps. Qu'est-ce que vous répondriez? Je répète la question.
Attendez, la Ktana, ça veut dire Alet, et Meouveret, c'est quoi?
Une femme enceinte. Je ne veux pas aborder parce que ça touche des sujets annexes. D'accord. J'essaie de vous faire.
Aller dans un certain sens.
Non, pas aller dans un cercle. Non, j'essaie de faire enlever les trucs qui parasiteraient la réflexion. D'accord, bien. Alors, donc je reprends. La démarche du commentaire de Rashi. Rashi dit, quand on nous dit ces femmes-là, la femme qui allait, par exemple, c'est qu'elle s'est permis de le faire. Si tu dis Rashi que ça c'est permis, ça veut dire que les autres c'est interdit. Si les autres c'est interdit, c'est que mettre un tissu à cet endroit, c'est Ashrata Zera. Donc si c'est Ashrata Zera, c'est clair le terme, ça veut dire c'est détruire la semence, selon ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc si c'est détruire la semence, pourquoi maintenant tout d'un coup ça devient permis? Si c'est interdit, pourquoi ça devient permis? Ça devient permis. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il dit ça, lui. Pourquoi il dit ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, moi. Hein, les prix Nobel, là.
C'est pas nominal.
Comment?
C'est pas nominal.
Quoi, les prix Nobel?
Non.
D'accord.
Mais si, non, je pense, oui. si on reprend le discours que les bébés il est à risque, on ne va pas prendre les risques de faire mourir un bébé pour faire peut-être naître d'autres bébés, mais qui ne sont pas déjà là, alors que lui il est déjà là.
Alors qu'il ne se sépare.
Vous avez dit on pourrait ne pas.
Bah voilà, enfin, mais voilà.
Bah parce qu'à ce moment-là, voilà. On prend en compte toutes les autres mitzvot, toutes les autres modèles de Ona dont vous avez parlé, et la condition aussi de l'homme, et dans sa faiblesse, d'avoir besoin.
Oh, ça va, je veux dire.
Parce que la Torah, elle est quand même vachement à l'écoute de tout ça. On ne peut pas mettre de côté un consigne énorme de.
D'accord, mais on ne peut pas faire un interdit de, sur des trucs pseudo, psycho, excusez-moi l'expression. C'est interdit, c'est interdit. Je sais pas, moi je passe devant, je vais, je sais pas moi, un Carrefour faire mes courses, je vois un étalage de crevettes. Je vais crever. Comprenez-moi, je veux manger des crevettes. On s'en fout de tes problèmes. T'as pas le droit, tu fais autre chose. Je veux dire. Ah, mais des crevettes.
C'est
calme-toi. Comment?
C'est aussi obligé d'avoir des relations régulières.
C'est ça? Avec la Selena? Parce que la Selena, elle doit avoir un sens quelque part. Pourquoi on est obligé d'avoir des relations régulières avec son époux, enfin avec son épouse? Il y a une dimension.
Oui. Alors, ça, c'est la démarche du Ritva, oui. C'est la démarche du Ritva, de Rabbi Yom Tov Ben Avshili, qui était en Espagne au XIVe siècle, le Ritva, un élève d'un élève de Narmanide, le Ritva, grand commentaire, qui était en Espagne, il explique Rashi comme vous dites. Et la plupart des commentateurs, le Razonich, Rav Moshe Feinstein rapporte ce Ritva comme étant la halakha, que étant donné qu'il a une obligation de Ona, et que cette obligation de Ona n'est possible que de cette manière, ça ne s'appellera pas Ashratat Zera. Étant donné, Ashratat Zera, c'est-à-dire détruire la semence, c'est-à-dire c'est avoir une relation à la semence pour rien. Mais là, c'est pas pour rien, puisque c'est pour la mitzvah de Ona.
Oui.
Donc ça, c'est la démarche de Ritva. Mais beaucoup sont contre. Mais cette démarche, le Razonich, vous avez déjà entendu parler de Razonich, Rav Avraham Ishayahu Karlitz, était dans les années 40-50, 1940-1950, considéré en Eretz Israël, en Israël, comme le grand, je ne sais pas moi, le phare de la halakha, la grande lumière de la halakha. Le Razonich était unique dans son genre, et lui a beaucoup traité le sujet. Et le Razonich, dans son Sefer Razonich, dans Even Haezer, aborde comme le Ritva, il rapporte la halakha comme le Ritva, et c'est d'ailleurs comme ça que la plupart des décisionnaires aujourd'hui se basent sur ce Rashi, en disant que s'il y a l'obligation de Ona, ça ne s'appellera pas donc semence en vain. Semence en vain, c'est en vain. Mais si s'exprime une mitzvah, ça ne s'appelle pas en vain. Quand bien même y a-t-il un moyen artificiel pour faire que la femme ne soit pas fécondée?
Mais là, je ne sais pas si j'ai bien compris, à un moment vous avez dit qu'il n'y a pas d'autre moyen d'accomplir la mitzvah de Ona que de passer par ce mort qui finalement va
obstruer.
Mais ce n'est pas le cas pour la femme enceinte et la jeune fille qui pourraient avoir des rapports. Effectivement, ça ne va pas féconder, mais sans mort, ça ne féconderait pas non plus.
Oui, alors c'est ce que j'ai dit. Je ne rentre pas là-dedans. Parce qu'il y a un débat entre Rabbi Meir et les Rabbanan. Est-ce qu'une femme pourrait néanmoins avoir un début de grossesse sur sa grossesse? Alors ce sont des cas très rares. Est-ce qu'on prend en compte ces cas rares? Ça pourrait mettre en péril la grossesse. Alors bon, je ne rentre pas là-dedans. C'est ce que j'ai introduit, je ne rentre pas là-dedans parce que c'est trop compliqué. Moi j'ai pris que l'exemple de la femme enceinte, la femme qui allait, d'accord? Bien. Vous avez raison, mais c'est pour ça que ça rentre dans un autre débat. Alors, bien. Alors, Rabbeinu Tam.
Mais là, Rashi, il dit juste que c'est une possibilité, c'est-à-dire.
Permis.
Dans le cas où la femme allait, il serait possible
C'est ça.
Donc là, bien sûr, il n'y a aucune obligation, c'est il ouvre une possibilité. On est bien dans un...
C'est pas... Voilà, absolument.
On est bien dans un conditionnel, c'est ça quand même.
C'est des, alors, Rabbeinu Tam, son petit-fils, oui, s'oppose à l'explication de Rashi. Il s'oppose à l'explication de Rashi. Entre parenthèses, c'est très très important. Dans l'étude, il n'y a pas de dévotion. Il n'y a pas de dévotion. C'est le il n'y a pas mon vénéré grand-père. Oui, mon vénéré grand-père, je ne suis pas d'accord avec lui. Voilà, c'est il n'y a pas. Je ne suis pas d'accord avec lui s'il a des arguments. Simplement, je ne suis pas d'accord avec lui parce que c'est mon grand-père et que je ne suis pas d'accord avec lui. Non. Mais il n'y a pas de dévotion. C'est très important. C'est très important que l'étude donne la possibilité d'exprimer nos divergences. Et on ne met pas... Il n'y a pas de dévotion. Il n'y a pas de dévotion. Ça, c'est très important. Donc, Rabbeinu Tam s'oppose complètement à la démarche de Rashi. Il dit que ces trois femmes, c'est pas ont le droit, mais ces trois femmes doivent mettre le mort. Elles doivent. Sous-entendu que les autres, c'est permis. C'est-à-dire... Donc, Rabbeinu Tam... Alors maintenant, il va y avoir deux démarches pour comprendre Rabbeinu Tam. Et après, vous sortez une feuille pour voir si vous avez bien compris. Moi, j'adorais quand j'étais à l'école. C'est-à-dire, il y avait le cours, sortez une feuille. Ah, j'adorais, sortez une feuille. Vous aimiez ça? Peut-être il y a des profs parmi vous. Vous aimez se faire. T'es prof, toi, hein? Tu fais ça des fois après le cours, sortez une feuille. Fais plus. Oh, c'était tueur, sortez une feuille. Oh mon Dieu! Ah non, monsieur, si, sortez une feuille, quatre questions. Ah non, monsieur. Si, sortez une feuille. Ah, j'adorais, c'était super. Alors, regarde, je reprends. Mais vous avez bien suivi, ça va, c'est bon. Je vois que vous suivez. Je reprends. Mais si vous voulez, je me permets d'aborder ce sujet. Parce que si on prend un petit peu de recul, moi personnellement, chaque fois que je prends ce sujet, ça me bouleverse de voir que les questions aujourd'hui qui peuvent être traitées avec tous les moyens modernes sont analysées par nos maîtres il y a 800 ans, premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement, sixièmement, septièmement. Et tout est décortiqué. C'est quand même... Et ça, vous pouvez lire des livres d'éthique médicale. Il y a... Vous avez entendu parler de René Friedman, le premier médecin français qui a fait un bébé éprouvette, hein, dans les années 80.
Oui, il y a l'affaire, justement, c'est le bébé médicament. Et là...
Peut-être il a récidivé. Moi, je parle de Amandine, comment elle s'appelait?
Le bébé éprouvé, ça fait penser à Amandine.
Comment? Amandine, c'était en 85, un truc comme ça. En 85, il a fait le premier bébé français, fécondation in vitro, dans le service de Émile Papiernik. Émile Papiernik qui habitait d'ailleurs à côté d'ici. Comment? Hein? Il habitait à côté d'ici, Papiernik. Bon, évidemment, c'est que des feuges à tous les... À l'horizon. Ouais, si vous n'êtes pas juif, vous ne pouvez plus vous occuper de ces trucs-là. Bon. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, alors, il s'est occupé encore... Alors ça, je n'ai pas suivi. D'accord.
Bon.
D'accord. Non, en tout cas... Il a écrit livre sur livre. Il a écrit livre sur livre et il a écrit il y a, je ne sais pas, 5-6 ans, un livre que j'ai lu sur d'éthique médicale. Et il dit, donc lui, c'est un juif normal, pas pieux, quoi. Et Je suis fâche connasse, quoi, en un mot. Et alors... Et il dit que lui, il a essayé de voir dans toutes les cultures, chez les bouddhistes, chez les protestants, chez les musulmans, etc. Et il dit dans un livre que vous pouvez trouver aisément dans des bibliothèques, il dit, il n'y a que dans la tradition juive que c'est analysé extrêmement précisément. Et le pire, c'est dans le christianisme. Dans le christianisme, c'est interdit, point. Maintenant, comment ? Interdit. Comment ? Pourquoi ? Interdit. Vous voyez, dans le catéchisme, ouais, c'est interdit. Et après, mais c'est très, très, c'est extrêmement important, c'est fondamental. Nous, si vous voulez, c'est ça ce que je veux voir avec vous. C'est vrai qu'il y a un principe, Ashrata Zara, c'est interdit. On l'a dit tout à l'heure, même on le voit dans la Torah. Mais une fois que c'est dit, nos maîtres ne s'arrêtent pas là. Nos maîtres vont essayer de définir. De quoi il s'agit ? Et qu'est-ce qu'il s'agit ? Dans quelles circonstances ? Et par rapport à qui ? Dans quel contexte on parle ? Et ça changera du tout au tout. D'après Rashi, en vitesse de croisière, c'est interdit. Et cet interdit deviendra même permis. Alors, Rabbeinu Tam dit, ça je ne comprends pas. Soit c'est interdit, soit c'est permis. Cette histoire de Ona, il dit, c'est bidon. Bon, ça me paraît bidon. Soit c'est interdit, soit... Alors. Il dit, donc il faut comprendre la Gemara pas comme Rashi. Il faut dire, ces trois femmes, on ne peut pas transformer un interdit avec une baguette magique. Il dit, soit c'est permis, soit c'est interdit. Donc il faut dire, qu'et me chamèche bé mort, c'est permis. Et que ces femmes-là, on dit, elles doivent le faire. C'est pas que c'est permis, c'est elles doivent le faire. Bien. Alors maintenant, il y a un grand débat. Que veut dire Rabbeinu Tam ? Que veut dire Rabbeinu Tam ? Il y a un débat. Il y a deux thèses. La première thèse, c'est que pour lui, mettre le mort au moment, vers le tissu, au moment du rapport, n'est pas fondamentalement Ashrata Zera. Ashrata Zera, c'est dilapider la semence. Mais là, finalement, la relation... est quasi normal avec sa femme. C'est vrai qu'il y a un truc qui fait qu'elle n'est pas fécondée. Mais d'après certains commentaires qui expliquent Rabbeinu Tam, finalement, c'est comme avoir une relation avec sa femme enceinte qui ne peut pas avoir un enfant ou avec sa femme ménopausée qui ne peut pas avoir d'enfant. Donc finalement, ça ne change rien. Tu mets le tissu ou pas le tissu, ce n'est pas Ashrata Zera. Donc, en vitesse de croisière, c'est permis et là, ça sera obligatoire. Mais, et c'est ça, parce que maintenant, nous allons passer au clou du sujet.
Merci.
Alors. Alors, bon, c'est en écriture. Rashi, n'ayez pas peur, je vais lire, je vais traduire et je vais essayer d'expliquer. Donc, ce que vous avez en main, c'est le commentaire du Rosh sur le Talmud, sur ce passage du Talmud. Alors, le Rosh, c'est Rabbeinu Asher. Rabbeinu Asher était au début 14e siècle en Allemagne. Alors, le Rosh est un des maîtres fondamentaux de notre tradition. Il était en Allemagne. Son maître, c'est Rabbi Meir de Rothenburg. Vous avez entendu parler de Rabbi Meir de Rothenburg ? Alors, je fais une petite parenthèse, parce que c'est vraiment des... des piliers de notre tradition. Rabbi Meir de Rothenburg... Donc, était en Allemagne, c'était le grand maître en Allemagne. Grand maître en Allemagne. Et un un seigneur, l'Allemagne à l'époque, c'était pas un pouvoir central. Le pouvoir central en Allemagne, ça a été seulement en fin 19e, avec Bismarck, etc. Il y avait des ducs, des comtes, etc., qui étaient dans des régions. Et il y a un duc qui a kidnappé le grand maître d'Allemagne, qui s'appelait Rabbi Meir de Rothenburg, pour demander une rançon à la communauté juive. Et tout de suite, la communauté a trouvé la somme faramineuse pour le racheter. Et Rabbi Meir de Rothenburg, sur la base d'une Mishnah dans le traité Gittin, a interdit qu'on le rachète. Il est resté jusqu'à sa mort en prison, où il recevait malgré tout ses élèves. Ses élèves allaient le voir là-bas, en prison. Il est mort là-bas, et après, il est resté encore 7 ans après, le Seigneur a encore demandé une rançon pour pouvoir l'enterrer. Et c'est remarquable que la tombe de Rabbi Meir de Rothenburg est à Worms, et le cimetière où se trouve la tombe de Rabbi Meir de Rothenburg n'a même pas été touché pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un truc incroyable. Et c'était le grand phare du monde allemand. Et le Roche, quand ça s'est passé, quand c'est arrivé cette histoire, le Roche a craint que ça lui arrive la même chose. Il a fui l'Allemagne. Il est allé dans le duché de Savoie. Il est allé un temps à Chambéry. Il est allé un temps à Chambéry et ensuite il est allé en Espagne. Et par lui, la tradition d'études allemande est passée en Espagne et a fait une symbiose avec les maîtres espagnols. C'est un maître très très important, le Roche. Très très important, qui est un des piliers de la halakha. Alors lui, nous allons voir comment il explique Rabbeinu Tam. Alors je vous dis tout de suite, la halakha, c'est la décision légale aujourd'hui, n'est pas comme on va voir dans le Roche. C'est pas comme on va voir dans le Roche. Mais, moi j'ai appris de mes maîtres la centralité, malgré tout, du commentaire que nous allons voir. On va apprendre des choses très très importantes du commentaire. Quand bien même ne serait-il pas là. Alors, vous avez vu, j'ai souligné là, mais on fait quelques lignes plus haut, au-dessus du trait. Vini relik et pirush Rabbeinu Tam, c'est en abrégé. Vini relik et pirush Rabbeinu Tam. Vini relik et pirush Rabbeinu Tam. Lui dit, je vais dans le sens du commentaire de Rabbeinu Tam. Donc, Rabbeinu Tam qui dit que ces femmes-là doivent le faire, ce qui signifie que les autres ont le droit contre Rashi. Parce que Rashi dit, toutes n'ont pas le droit et celles-là ont le droit. Mais qui pose le problème, comment un interdit peut être levé? Donc Rabbeinu Tam, il arrache l'interdit, il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas d'interdit. Toutes ont le droit, mais elles doivent le faire. D'accord? Venir Eli, Kepirush Rabbeinu Tam. Dehu me faresh et tsatova kamashmanan. Il explique qu'en vérité, c'est un bon conseil que ces trois cas-là, donc la femme qui allait, c'est bien qu'elle mette le mort. Mais il explique, pas comme la première explication que j'ai donnée, Vekegon. Alors là aussi, je pense que ça va vous choquer un petit peu, tant mieux. Vekegon. Chez Messimot, à mort, la Chat Tashmish. Lui, ce qu'il permet, il va lire la Gemara que ces femmes-là ont une relation avec un tissu, mais lui, il explique pas qu'elles mettent le tissu au moment du rapport. Parce que lui, ça c'est sûr, ça shratat zera. Comme contre ce que j'ai dit il y a un quart d'heure. Hein. Contre ce que j'ai dit. Hein, bon, c'est du Talmud. Hein.
Bienvenue okay. Dans le monde du Talmud.
Comment?
Comme vous le dites, ouais. Dans le monde du Talmud.
Monde enchanté.
Enchanté.
Monde enchanté. Donc, ici, il dit... Non, il dit, c'est interdit. Il s'oppose à la première lecture. C'est interdit de mettre en toutes circonstances un tissu au moment de la relation. C'est toujours Ashrata Zara. Zara contre Rashi, Et contre la première explication, on a donné le Rabbeinu. Donc, qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui est permis? Ce qui est permis, c'est une fois qu'il y a eu la relation, d'essuyer toute la semence. Post-relation, enlever la semence. C'est ça qui est permis. Donc, ça, toute femme a le droit de le faire. Toute femme a le droit de le faire. Et elle, ces femmes-là, la femme qui allait, on lui dit, tu dois le faire. Tu dois le faire. Viefcha, le Faresh Kepirush Rashi, c'est impossible de dire comme Rashi, des louanashim utarot, que ces femmes-là ont le droit, Viesha nashim asurot, et que les autres femmes, c'est interdit. C'est impossible. Parce que, des im et simot amor beshatashmish. Parce que, si tu dis qu'elle met le tissu avant d'avoir la relation, avec Ematil, Aletzim et Alavanim, ça revient finalement à une dilapidation de semences. Tu mets la semence sur le tissu, ça revient finalement à une dilapidation de l'acte. Vikiva de Mashrit Zera, Kemavima Bouleolam. Il abîme sa semence. Il a mis une dégradation dans le monde. Et l'homistaber chatirou les lois nashibishvil simkratona des moutav chez le chamchoukla. Donc lui, il est contre Ritva. Il dit, et si tu me dis oui, mais il y a la joie de la vie de couple, la joie de la vie de couple, ça sera plus tard, pas maintenant. Ça va. Alors, donc il faut comprendre le texte que les femmes, elles ont la relation avec le tissu. Le tissu, c'est pas le tissu avant le rapport, c'est le tissu après le rapport. Ve'ilachar tashmish, si, alors ça, c'est là où j'ai souligné, hein. Ve'ilachar tashmish, mais si le tissu est après le rapport, ni reli, alors écoutez, là, il va inventer la bombe atomique. Moi, je dis souvent à mes élèves, je l'ai dit hier soir, n'est-ce pas, Arnaud, n'oubliez pas que nous sommes le peuple qui avons inventé la bombe atomique. N'oubliez pas ça. Et bien là, il va inventer la bombe atomique. On y arrive. Il dit, « Vi'il achar tashmish » Si on parle qu'elle met le tissu après le rapport, « Nireli chez Enbo Issur Klal » Il me semble qu'il n'y a aucun interdit. « Afle achar nashim » Même pour toute femme, même si tu dis, comme Nachmanide, que l'interdit d'Ashratat Zera concernerait aussi les femmes, des lots micrés Ashratat Zera, parce que c'est quoi détruire la semence? C'est quoi l'interdit de détruire la semence? Et là, Bemi, Shegorem, Aliede, Chimoum, Shemotsi, Zera, Le Batala, Benaïch ou Benaïcha, c'est causé de s'échauffer et dilapider la semence. Aval arrache nekar azera minagouf. Mais une fois que le couple a eu la relation, détruire la matière séminale, c'est pas ça l'interdit. L'interdit, c'est détourner la relation entre un homme et sa femme. Mais une fois qu'il y a une relation entre l'homme et sa femme, la matière séminale elle-même, c'est pas ashrata zera. La traduction, détruire la semence, tu dirais comme ça. Détruire la semence. C'est quoi détruire la semence? Je prends la semence masculine, je la détruis. C'est ça, comme ça, n'importe qui comprend. Il dit non, c'est pas ce que la Torah vise. C'est pas un respect de la matière séminale, c'est un respect de la relation. Si la relation, il n'y a eu aucun détournement de la relation entre l'homme et sa femme, après nettoyer la semence pour qu'elle ne soit pas féconde, pour qu'elle ne soit pas fécondée, bon, c'est prendre un risque. Mais, c'est prendre un risque. Mais, nettoyer la semence, il n'y a aucune ashrata zera. Ashrata zera, c'est détourner la relation. Si la relation n'a pas été de type détournée, mais ça a été une relation entre l'homme et sa femme, après évacuer la semence, il n'y a aucun interdit. Non. Comment? Donc, est-ce que, d'abord, au niveau formel, est-ce que c'est clair ce qu'il dit? Comment? J'explique. Lui, le Rosh, explique Rabbeinu Tam comme ça. Lui dit, il s'oppose radicalement à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il dit, mettre le tissu avant la relation, c'est faire que la relation, c'est rendre artificielle la relation entre l'homme et sa femme. Cette artificialisation, excusez-moi du mot, j'appelle ça aussi détourner. C'est rendre artificielle la relation entre l'homme et sa femme. Ça, c'est Ashratat Zera. Ça veut dire, c'est quoi Ashratat Zera? C'est détourner la relation, faire que la relation entre l'homme et sa femme ne soit pas une relation entre homme et femme. C'est une relation entre homme et femme interrompue. C'est ça l'interdit d'Ashratat Zera. Ça revient finalement à une masturbation ou dilapider. Voilà. Ça revient à ça. Mais une fois que l'homme et sa femme ont eu sa relation, la Torah ne se soucie pas de la matière. C'est, ce qu'il interdit, ce n'est pas la matière séminale. L'interdit, c'est la relation entre l'homme et sa femme. C'est de détourner. C'est artificialiser la relation entre l'homme et sa femme. On va la rendre artificielle. C'est ça, la boucher cette relation. Si cette relation a été kederer kol haaretz, habituelle, alors ensuite, excusez-moi l'expression, en nettoyer, enlever toute la semence, c'est pas détruire la semence. Détruire la semence, il faut bien comprendre, c'est détourner la... C'est artificialiser la relation entre l'homme et sa femme. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit d'ici. Alors, je vais vous dire, mon maître Rav Abitbol, qui enseigne à Strasbourg, déduit de ce Rosh un point fondamental, absolument fondamental. C'est que, et ça a à voir avec ce qu'on a vu la semaine dernière. L'interdit de la Torah n'est pas relatif à la matière, mais à la relation. Le corollaire de ça, mon maître veut dire, et c'est un débat, je ne dis pas que c'est la halakha, mais c'est un débat, et c'est important de soulever le débat. Par exemple, un enfant, une femme, qui est enceinte par fécondation, par exemple, par insémination artificielle, de donneur, le donneur, disons, c'est son mari. Est-ce que le couple accomplit la mitzvah périr vérifier?
Oui.
Comment?
Oui.
Alors, mon maître veut déduire de ce roche que non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par le biais d'une relation. C'est médié par la matière séminale.
Oui.
Mais la matière séminale, mais pas par le biais d'une relation.
C'est
triste,
mais c'est faire à l'enfant.
Ils
n'ont pas d'autre choix.
Non,
non. Non, mais ça veut dire que la relation est concernée.
Comment?
Non, mais à partir du moment où la relation est
triste, il y a beaucoup de choses tristes. Moi, j'aimerais être riche, je ne suis pas riche. C'est triste. Moi, j'ai voulu être champion de natation. Je ne suis pas champion de natation. C'est triste. Pleurez avec moi. Il y a beaucoup de choses tristes dans l'existence. Je ne sais pas. Moi, j'ai toujours voulu être juif marocain. Je ne suis pas juif marocain. C'est triste. Non, je ne sais pas. Il y a plein de choses tristes.
Mais ils peuvent.
C'est horrible. C'est horrible. Comprenez-moi. Comprenez-moi, qu'est-ce que Dieu a fait que je sois ashkenaz avec machin, une culture absolument catastrophique? Pourquoi je n'aurais pas une culture sympathique, une culture ensoleillée? Que sais-je? C'est dramatique, pleurer pour moi. Bon, qu'est-ce que je sais? Comme oui, ça, je veux dire... qu'est-ce que je te dis?
En fait, parce que ce que je veux dire par triste, c'est que la relation est conservée comme elle essaie
de l'appeler. Merci.
Cette fois.
C'est vrai, c'est-à-dire que la relation est conservée maintenant.
Non, mais non, attends, ok. Le problème, le problème est posé. Ça veut dire, là maintenant, je pense, vous sentez le problème. Là maintenant, vous le sentez. C'est très bien, c'est parfait. Tout de suite, tout de suite. Tout de suite. C'est très très bien. C'est explosif. Je vous ai dit, là, maintenant, on va inventer la bombe atomique. Je vous ai prévenu. Hein, on va inventer... Ici, mais comprenons-nous bien. Ici, on ne veut pas pénaliser des gens. On ne veut pas faire bobo à des gens. On veut avoir une démarche de penser sur un problème. Réfléchir sur des notions. Réfléchir sur des phénomènes. C'est ça, la démarche talmudique. La démarche talmudique n'est pas de mettre l'anathème. Quelqu'un prend la contraception, ouais, on va amener les gardiens de la révolution judaïque et on va les fusiller. C'est pas ça. C'est pas la démarche, notre démarche. Notre démarche, c'est une démarche de plutôt d'analyser qu'est-ce qui se passe. D'analyser qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est quoi c'est quoi une relation, on pourrait dire, on peut comprendre que à la limite, excusez-moi l'expression, on peut comprendre, même si pas tout le monde respecte ça, mais on peut comprendre que d'un point de vue profond, la masturbation masculine a un côté pervers. Pourquoi ? Parce que c'est plutôt que tisser une relation avec un être, c'est rester tout seul dans son coin. Donc il y a quelque chose là de profondément pas fécond. Alors, pour une femme, vous pouvez remarquer la modernité d'abord de certains commentaires du Moyen-Âge. Ouais, il dit peut-être que la femme est elle a une relation à la sensualité qu'il faut laisser peut-être plus spontanée. Justement, que la Torah focalise moins sur des interdits, la femme, pour que peut-être qu'elle s'éveille plus à sa sensualité. C'est possible et j'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Ok. Ce qui d'ailleurs peut être, d'un certain point de vue, perçu comme quelque chose d'extrêmement moderne. Bien. Parce que si on parle dans un système de loi, la loi, souvent, est là pour brimer en premier lieu les femmes. On voit, je vous laisse voir les références à ce dont je parle. Bien. C'est les hommes qui font la loi, donc c'est bien, la loi est là pour brimer les femmes. Et si on voit une autre fonction à la loi. Ça, il faut au moins être attentif à ça. Même si ce n'est pas tous les avis. Bon, moi, Rabbi Boutam, c'est ce qu'il dit. Bien. Maintenant, donc on peut comprendre qu'il y a quelque chose de pervers dans une dimension de l'homme qui est seul dans une dimension non féconde. Maintenant, il n'est plus seul, mais il met une relation non féconde avec son épouse. Est-ce que c'est Ashrata Zera, pas Ashrata Zera? Là-dessus, nous avons vu toute une palette d'avis. Il y a un avis, un deuxième avis, un troisième avis. Ok, bien. Le Roche, lui, il est assez radical. La Halakha n'est pas comme lui, mais il est assez radical. Il dit, mettre quelque chose qui obstrue la possibilité de fécondation, ouais, et finalement rester chacun de son côté. Ils sont ensemble sans l'être. Voilà. Ils sont ensemble sans l'être. La relation, c'est deux êtres qui sont ensemble. Ils sont ensemble, mais ils ne sont pas vraiment ensemble. C'est ça l'interdit d'Ashrata Zera. Ashrata Zera, c'est finalement être chacun de son côté. C'est ça dilapider la semence. Mais c'est pas la semence, c'est pas la semence qui nous intéresse. Ce qui intéresse, c'est un respect de la relation. Si la relation a été respectée, eh bien, détruire la semence n'est pas l'interdit de dilapider la semence. Dilapider la semence, c'est finalement faire que chacun ait de son côté. Si, finalement, ils ont été ensemble, ensuite, ils nettoient, aucun problème. C'est comme ça qu'il va lire l'agma, c'est ça le Shavshot Bébé. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qui est visé? Ce qui est visé, c'est une relation entre deux êtres. Mais la semence elle-même n'est porteuse de rien. Elle n'est pas porteuse de sens. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Elle n'est pas porteuse de sens. C'est pour ça que tu peux la détruire, c'est pas grave. Donc, mon maître veut déduire de là que une fécondation qui ne se passerait pas par une relation entre un homme et sa femme, mais par le biais de la matière, finalement, est insignifiante. Ça peut donner un bébé, mais il n'y a pas de dimension de paternité, parce que la paternité vient d'une relation. Je vous donne un exemple, pour aller encore plus loin. Rav Moshe Feinstein, que j'ai cité tout à l'heure, ira même jusqu'à dire, alors ça voilà, c'est quand il a sorti ça, il y a une cinquantaine d'années, ça a été le... Dans les années 50, ont été pas mal pratiquées les inséminations artificielles. Donc, et ça, c'est encore pratiqué. Bien. Alors maintenant, il y a une femme mariée. Nous savons qu'une femme mariée, elle a un enfant de quelqu'un qui n'est pas son mari. L'enfant a un statut de mamzer. On a vu ça il y a quelques semaines. L'enfant a un statut grave de mamzer. Bien. Maintenant, Rav Feinstein dit, une femme mariée, elle n'avait pas le droit de le faire, pour des raisons que nous ne pouvons pas aborder encore, rajouter encore des trucs, non. Elle n'avait pas le droit de le faire. Mais finalement, elle ne pouvait pas avoir d'enfant de son mari. Elle a reçu... Elle a été fécondée par insémination artificielle d'un donneur externe au couple. Est-ce que l'enfant a un statut de mamzer?
Lui, il dit que non.
Il dit que non.
Ça tient plus la route que tout à l'heure, ce qu'on a dit pour la fécondation in vitro. Parce que c'est vrai que le statut de mamzer, on peut comprendre que ça vient d'une corruption quelque part des deux personnes qui ont conçu l'enfant. Alors que là, il n'y a pas eu de corruption, donc ça paraît logique. Alors que le couple tout à l'heure qui ne pouvait pas avoir d'enfant, ils continuent à avoir des relations, ils ont un enfant par un moyen scientifique qui leur est proposé, et on dit quand même qu'ils n'ont pas accompli la mitzvah, c'est moins logique que
oui,
ça.
Oui, si vous voulez, c'est choquant. Alors, pour vous dire, j'ai discuté de ça avec beaucoup de grands maîtres. Tous les grands maîtres avec qui j'ai parlé sont contre l'avis de mon maître. Je vous le dis, ils sont contre. Ils disent que concrètement, par fécondation in vitro, le donneur père, le donneur mari, accomplit l'obligation de Piria Verivia.
Et, oui. Et en cas du mamzer?
Tout le monde est d'accord avec Rav Feinstein. Non, pas tout le monde, pas d'accord. Mais en tout cas, je vous rapporte néanmoins cette démarche que Rav Abitbol sort du Roche, parce qu'elle est extrêmement... profonde, elle est extrêmement profonde, que aujourd'hui, si vous voulez, on parle beaucoup, nous sommes des êtres biologiques. On voit beaucoup, on est finalement, tout ça s'est développé, c'est vrai, pour aider des femmes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, évidemment. Mais on travaille la matière. Nous travaillons la matière. On travaille les chromosomes. On travaille les cellules. Et c'est extrêmement développé. Mais ce qui est porteur de sens, ce n'est pas la matière, mais le Roche dit, c'est la relation qui est porteuse de sens. Ça, c'est quelque chose qui me semble absolument fondamental. C'est absolument fondamental. La matière n'est porteuse en tant que telle de rien. Nous ne sommes pas des êtres biologiques. Et quand la Torah nous donne des interdits, c'est de préserver justement cette relation entre un homme et sa femme. Maintenant, nous avons vu un peu toute la palette. Comme vous avez, alors, au niveau de la halakha,
il y a les possibilités de ne pas avoir d'enfants, mais parfois ce ne sont pas des raisons biologiques qui empêchent d'avoir des enfants dans un couple, et qu'il y a une impossibilité d'avoir des enfants, et que donc c'est bien l'enjeu de la relation qui est au cœur finalement, non pas du désir, mais plus que du désir,
de la possibilité d'une relation.
Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui aujourd'hui a été observé.
Absolument.
Et donc c'est vrai qu'il peut y avoir une espèce de précipitation par la science. C'était comme la semaine dernière sur le changement de lune, et donc la nécessité qu'il y ait quelqu'un qui témoigne. Donc là, c'est un peu la même signification finalement.
Absolument. C'est un autre champ d'application de ce que nous avons vu la semaine dernière.
Il y aurait une précipitation comme là, l'astronomie peut nous dire l'heure, je me retrouve dans les pensées, l'astronomie peut nous donner l'heure, et là c'est vrai que la science peut nous donner de manière sûre la solution.
Alors une solution, mais en vérité qui n'en est pas forcément. Parce que c'est médié par une matérialité, qu'en vérité, ce n'est pas ça l'enjeu. Ça, c'est quelque chose de très, 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 très profond. Voilà. Ok. Bien. En tout cas, l'alaha, au niveau de l'alaha, j'ai aussi discuté avec des décisionnaires sur ce sujet. On tranche l'alaha comme le Ritva. Le Chazon Ish, Rav Moshe Feinstein, tranche l'alaha comme le Ritva, par exemple, qu'une femme qui est fatiguée, ils ont plusieurs enfants, elle est fatiguée. Rav Feinstein dit quelque chose d'extrêmement profond. Il dit, une maman, elle a des enfants en bas âge. Et elle crie sur ses enfants. Elle donne des fois des claques. Elle crie. Elle est en danger. Considérer un danger. Et là, il faut prendre du temps. Et alors, à l'époque du Chazon Ish, dans les années 40-50, il permettait ce qu'on appelait le diaphragme. Il permettait ce qu'on appelait le diaphragme dans des cas de femmes fatiguées, etc., en se basant sur la vie du Ritva. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple, étant donné qu'il y a eu des gros progrès sur les pilules. Bon, ça, c'est d'un point de vue légal, c'est beaucoup plus facile, puisque la relation est complètement normale. Maintenant, il faut comprendre que la base d'un couple, c'est a priori accomplir le commandement de fructifier et multiplier, et qu'il faut se mobiliser là-dessus. Voilà, bien, merci.